sur Radio Franca. Radio Franca, c'est la radio des enfants. Retrouvez toutes les émissions sur franca-on-r.fr.
Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Radio Franca avec la classe de CM1 CM2 de Madame Fries. Aujourd'hui, nous allons vous présenter quelques-uns des projets qui animent notre classe tout au long de l'année. Dans un premier temps, nous vous présenterons le projet Écrivain en herbe. Ensuite, nous vous parlerons de la classe d'eau et enfin quelques mots sur le projet danse. À présent, je laisse la parole à Wassim pour le projet Écrivain en herbe.
Merci Luna. Effectivement, nous allons vous présenter le projet Écrivain en herbe qui réunit plusieurs classes de toute la France communiquant par le biais de l'ENT One. Ce projet a pour but de s'ouvrir au monde à travers une éducation à l'image avec des courts-métrages et des photographies. Au final, il s'agira de réaliser un travail photographique portant des valeurs éco-responsables. Ce reportage sera accompagné d'un texte littéraire à la manière de l'auteur étudié. Anastasia, peux-tu nous parler des étapes du projet ?
Oui, bien sûr, Wassim. Ce projet se décline en 4 étapes. Dans un premier temps, nous allons visionner 3 courts-métrages mis à disposition des classes à travers l'ENT par le festival Éco d'ici, Éco d'ailleurs, afin de renforcer notre conscience écologique. À la suite du visionnage, des échanges interactifs sont mis en place entre les classes. Lucie, peux-tu nous présenter le premier court-métrage et nous expliquer le travail réalisé ?
Le premier court-métrage visionné s'intitule « Chemin d'eau pour un poisson » réalisé par Mercedes Maro. Par une nuit étoilée, dans un quartier pauvre d'Amérique latine, Oscar est réveillé par un brusque coup de vent. De sa fenêtre, il aperçoit un petit poisson rouge qui se débat dans une flaque d'eau sale et va à son secours. Pour le remercier, le poisson lui offre 3 diamants. Après avoir regardé le court-métrage, nous devions répondre collectivement à 2 questions avant de prendre connaissance des réponses des autres classes. La première question était « Dans quelle région du monde se passe cette histoire ?» Essayez d'être le plus précis possible et indiquez les éléments qui vous permettent de répondre. À cette question, nous avions des avis partagés. Nous hésitions entre le Mexique, compte tenu de la langue hispanique, la musique et les couleurs flamboyantes utilisées, ou la Palestine, car nous venions de voir le film Le Wardi, et les maisons aux toits plats, aux fenêtres à barreaux et à flancs de collines, avaient la même disposition que dans le court-métrage. La deuxième question était, quel est le message délivré par les auteurs de ce court-métrage ? Comme beaucoup de classes, nous pensons que l'auteur du court-métrage a voulu nous faire prendre conscience de la rareté de l'eau dans certains pays, et le besoin nécessaire de l'économiser et de ne pas la gaspiller. La présence des diamants nous rappelle que le fait d'avoir de l'eau au quotidien est une richesse pour l'homme.
À présent, Eileen, peux-tu nous présenter le second court-métrage et nous expliquer le travail réalisé ?
Le second court-métrage visionné s'intitule « Après la pluie » de Valérian Desterne, Rebecca Black et Céline Collin. Pour ce court-métrage, le responsable du projet nous a proposé d'écrire un court texte qui pourrait inciter les lecteurs à aller voir ce court-métrage. Mais comme cet exercice n'est pas facile, nous avons collaboré pour préciser quelles sont les exigences d'un tel texte. Pour nous, ce qui nous paraît important, c'est de présenter la situation initiale avec les lieux et les personnages, de parler de l'événement qui va tout faire changer. Mais il faut aussi garder du suspense, ne pas tout dire mais donner envie et enfin parler du message que veut nous faire passer le réalisateur. Nous avons choisi de ne pas vous raconter le court-métrage, mais plutôt de partager le texte de promotion officiel. Dans des pâturages verdoyants, un chien vit heureux auprès de son maître, un vieux berger peu ordinaire. Ce dernier ne se contente pas de tourner de la laine de ses moutons, il la transforme en nuage pour créer la pluie, perpétuant ainsi le cycle de la vie. Mais si le berger n'était pas éternel, qu'adviendrait-il de la vallée ? Le jeune chien devra se montrer créatif et persévérant pour éviter le pire. Alors, vous ai-je donné envie de le visionner ?
Merci Eline. Il nous reste un troisième court-métrage à visionner avant de passer à la seconde étape durant laquelle les classes découvriront une exposition photo sur le Cap-Vert à partir du mur numérique. Nous pourrons vous interagir avec le photographe, échanger sur ses intentions et prendre connaissance de la vie simple des agriculteurs et des pêcheurs capverdiens, en lien avec ce que nous travaillons en géographie. Nous pourrons aussi évoquer leur impact écologique en comparaison avec d'autres civilisations. Anthony, peux-tu nous parler des étapes suivantes ?
Bien sûr, Wassim. Dans un troisième temps, nous étudierons en classe des extraits de la nouvelle de Thomas Vineau. Et si ça va, pour nous familiariser avec l'écologie, nous pourrons échanger avec l'auteur par le biais de l'ENT accompagné d'un texte littéraire traduisant une rencontre avec une ou des personnes porteuses de valeurs écologiques, ou présentera un petit coin de nature qu'on oublie parfois d'apprécier à sa juste valeur et même de préserver. Les élèves auront le plaisir de se voir édité chez un imprimeur, aboutissement de la construction d'une véritable posture d'auteur.
Merci Anthony. À présent, nous vous proposons un court extrait de la nouvelle de Tom Vineau. Ici, ça va, je laisse la parole à Lilio.
Emma passe la grande majorité de ses journées au potager. Elle plante toutes sortes de graines, des fleurs, des légumes, des plantes aromatiques. Les semis sont sortis. Elle a fait un coin compost et posé une barrière autour de la terre labourée. Je lui ai installé un énorme bidon près de la gouttière pour récupérer les eaux de pluie. Nous devrions déjà commencer à chercher du travail pour cet hiver, mais nous ne nous sentons pas encore prêts. Il reste un peu de quoi voir venir, et puis, nous avons des choses à faire ici. Nos marques à trouver, nos nouveaux repères. Notre ancienne vie s'éloigne tranquillement comme une barque portée par le courant.
C'est ainsi que s'achève la présentation du projet Écrivain en herbe. Merci à Wassim, Anastasia, Lucie, Éline, Anthony et Lilio. Nous nous retrouvons après une courte pause musicale.
Le ciment dans les plaines coule jusqu'aux montagnes, poison dans les fontaines, dans nos campagnes. De cyclone en rafale, notre histoire prend l'eau, reste notre idéal. Faire les beaux. S'acheter de l'air en barre, remplir la balance. Quelques pétrodollars contre l'existence. De l'équateur au pôle, ce poids sur nos épaules. De squatteurs éphémères, maintenant c'est plus trop. Quelques baffes à prendre, la veille est pour demain, des baffes à rendre, faire tenir debout une armée de roseaux, plus personne à genoux fait passer le mot, c'est vrai la terre est ronde, mais qui viendra nous dire qu'elle est pour tout le monde et les autres à venir, puisqu'il faut changer les choses, oh ça, citoyen, il est grand temps qu'on propose un monde pour demain.
À présent, nous retrouvons Laura pour nous parler du projet Classe d'eau.
Merci Luna. Cette année, la classe de CM1 CM2 participera à une classe d'eau durant le troisième trimestre. Ce projet a été rendu possible grâce à la participation de l'agence de l'eau Rameuse. Lucas, peux-tu nous expliquer son rôle ?
Oui, bien sûr Laura. L'agence de l'eau Rameuse est un établissement public du ministère chargé du développement durable. Sa zone de compétence couvre une région et 8 départements, à savoir le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Moselle et la Meurthe-et-Moselle, dans leur totalité, mais aussi les Ardennes, la Haute-Marne, la Meuse et les Vosges en partie. L'agence de l'eau Rameuse contribue à réduire les pollutions de l'eau de toute origine et à protéger les ressources en eau et les milieux aquatiques. Grâce à des interventions financières, avec un soutien à des investissements, elle construit et développe des outils de planification. Enfin, elle produit et exploite des données sur l'eau pour la connaissance, la gestion et l'évaluation. Elle joue également un rôle éducatif, n'est-ce pas Timothy ?
Oui Lucas, l'agence de l'eau Rameuse lance chaque année un appel à projet scolaire pour les professeurs qui souhaitent travailler sur l'eau et les milieux aquatiques. 150 projets sont ainsi soutenus et accompagnés par l'agence de l'eau. Les classes concernées sont les classes de CE2, CM1, CM2, 6e et 5e. Le thème d'étude retenu pour l'année scolaire 2019-2020 est les milieux humides. Nous avons eu la joie d'apprendre juste avant les vacances que notre projet avait été retenu. Il se déroulera sur 5 jours avec une sortie à Bonzé, une analyse de la faune et la flore aux berges de l'Orne et au marais de Droitemont. Je laisse la parole à Eva.
Merci Timothy. Cher auditeur, savez-vous ce qu'est un milieu aquatique ? Un milieu aquatique est caractérisé par des habitats tels que les berges, les fonds et les courants, mais aussi par des populations végétales et animales, et enfin par la qualité physico-chimique de l'eau, c'est-à-dire la température ou les nutriments par exemple. Cet ensemble est fortement influencé par le climat, la géologie, l'ensoleillement et la végétation. Les lacs et les cours d'eau, mais également les zones inondables ou humides, telles que les marais et les tourbières, constituent des écosystèmes aquatiques.
Merci Eva. L'écosystème aquatique est le résultat d'un équilibre entre un milieu naturel et les espèces animales et végétales qui y vivent. Le fonctionnement de ces milieux se fait en lien étroit avec les eaux souterraines lorsqu'ils sont en bonne santé. On parle aussi de bon état. Ces milieux nous fournissent des biens et des services essentiels comme la nourriture, l'énergie, l'approvisionnement en eau, le bien-être et loisirs ou encore la régulation des crues. Laura, sais-tu comment fonctionne un écosystème aquatique ?
Bien sûr, Eliane. Dans un premier temps, le soleil fournit énergie et lumière aux écosystèmes. On distingue 3 grands groupes d'acteurs dans ces écosystèmes qui participent à la chaîne alimentaire. Les plantes aquatiques et les algues, les consommateurs et les décomposeurs. Léo, peux-tu nous dire 2 mots sur les plantes aquatiques ?
Les plantes aquatiques et les algues qui utilisent l'énergie du soleil et les sols minéraux sont des producteurs de matières primaires végétales comme les feuilles, les tiges ou les fleurs.
Parle-nous maintenant des consommateurs.
Les consommateurs qui se nourrissent de ces matières végétales sont les animaux aquatiques. Ils se nourrissent de plantes ou d'autres animaux.
À la fin de la chaîne alimentaire, nous retrouvons les décomposeurs, n'est-ce pas Léo ?
Oui Laura, les décomposeurs comme les bactéries et les champignons dégradent ces matières organiques. Ils les transforment en sols minéraux, servant à nouveau aux végétaux, ainsi le cycle est bouclé.
Malheureusement, cette chaîne est parfois troublée par l'intervention de l'homme, n'est-ce pas Timothée ?
En effet Laura, les milieux aquatiques peuvent être dégradés par les pollutions ou par les aménagements comme les barrages, les digues, les chenaux de navigation ou encore les extractions de sable et de gravier. L'apparition d'une pollution dans un milieu aquatique, le déséquilibre et peut modifier la nature de sa faune et de sa flore. Pour éviter cela, une véritable police de l'eau s'est mise en place pour faire respecter la législation française et européenne. L'objectif est la reconquête de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques et surtout la préservation de la biodiversité. Lucas, peux-tu nous en dire plus ?
Oui, Timothée. Les agents de la police de l'eau mènent des actions de prévention auprès des maîtres d'ouvrage et des gestionnaires de cours d'eau. Ils donnent des avis techniques aux services de l'État sur l'état des milieux aquatiques et sur l'impact de tel ou tel aménagement. Par exemple, la construction d'un barrage, la réalisation de travaux en rivière ou le développement d'une activité sur un cours d'eau. Ils contribuent de plus à l'identification des zones humides. Les agents de la police de l'eau veillent aussi au respect de la réglementation des usages de l'eau et des milieux aquatiques et constatent les infractions éventuelles. Ces contrôles sont effectués dans le cadre d'un plan de contrôle élaboré dans chaque département sous l'autorité du préfet. Les infractions constatées se traduisent par des sanctions administratives comme la suspension de l'activité d'une microcentrale ou d'un barrage par exemple, ou par des sanctions pénales comme une amende ou même une peine d'emprisonnement. Chacun de nous doit respecter la nature car le plus minime de nos actes se répercute sur la faune et la flore.
Merci Lucas. À présent, retrouvons nos reporters en direct de la cour de l'école.
Bonjour à tous, nous sommes en direct sur Radio Franca. Nous accueillons aujourd'hui Sophia, Yamina et Emeline pour nous parler de leur classe d'eau de l'an passé. Sophia, peux-tu nous en dire quelques mots ?
Bah, ce que j'ai moins aimé, c'est prendre les bêtes dans les mains. Et ce que j'ai plus aimé, c'est donner à manger aux poissons pour qu'ils viennent vers nous pour les pêcher.
Yamina, quelle fut ton activité favorite et celle que tu as le moins aimée ?
J'ai bien aimé quand on a dû regarder les bêtes dans un microscope, mais j'ai moins aimé quand on a dû les prendre dans nos mains.
Emeline, parle-nous de quelques souvenirs marquants.
Moi aussi, j'ai bien aimé quand on regardait les petites bêtes avec un microscope et j'aimais pas quand on les mettait dans les mains.
Merci Sophia, Yamina et Emeline pour vos témoignages.
C'était Anastasia et Eliane en direct sur Radio Franca, à vous les studios.
Merci à nos reporters Anastasia et Eliane. À présent, nous vous proposons quelques charades pour tester vos connaissances sur l'eau.
Mon premier est le prénom d'une fille de la classe composée de 3 lettres. Mon second est l'endroit où le bateau se gare. Mon troisième est la première lettre de l'alphabet. Mon quatrième est la dernière syllabe d'attention. Mon tout est le passage progressif de l'état liquide à l'état solide. Avez-vous trouvé évaporation ?
Mon premier est la première syllabe d'embouteillage. Je parle avec mon second. Mon troisième est la première syllabe de urbain. Mon tout est l'endroit où le fleuve entre dans la mer. Je veux bien évidemment parler de l'embouchure.
On fait le plein d'essence dans mon premier. Je lance mon second pour avancer dans un jeu de société. Mon troisième n'est pas pollué. Mon quatrième est la dernière syllabe du mot certification. Mon tout reçoit et traite les eaux usées pour pouvoir rejeter la nature, une eau épurée. Alors, chers éditeurs, avez-vous trouvé la station d'épuration ?
Mon premier est le contraire de eau. Mon deuxième est la première syllabe de sympathique. Mon troisième est green en anglais. Mon quatrième coule dans nos veines. Mon tout est l'espace drainé par un cours d'eau et ses affluents. Je veux bien évidemment vous parler du bassin versant.
Mon premier est un linge qui se met sur la table. Mon second est une dépense. Mon quatrième est un acarien. Mon tout est un réservoir d'eau dans le sol. Avez-vous reconnu la nappe phréatique ?
Mon premier recouvre mon corps. Mon second est le meuble sur lequel je mange. Mon tout qualifie une eau qui peut être bue sans danger. Il s'agit bien sûr du mot potable.
Mon premier est une voie bordée de maisons dans une agglomération. Mon second est la 9e lettre de l'alphabet. Mon troisième est un assaisonnement. Mon quatrième est la fin de la plupart des adverbes. Mon tout est l'écoulement des eaux sur la surface de la terre. Avez-vous reconnu le ruissellement ?
Mon premier miaule. Mon second est le contraire de tard. Mon troisième est une note de musique. Mon tout est un réservoir. Pousse dans une rizière. Mon second est le contraire de la mort. Je respire mon troisième. Mon tout est plus grand qu'un ruisseau. Avez-vous trouvé rivière ?
Merci à Laura, Lucas, Timothée, Eva, Eliane, Anastasia, Léo et Timothée pour cette présentation du projet Classe d'eau. Tout de suite, une pause musicale.
Citoyens, quelques baffes à prendre. La veille est pour demain, des baffes à rendre. Faire tenir debout une armée de roseaux. Plus personne à genoux fait passer le mot. C'est vrai, la terre est ronde, mais qui viendra nous dire qu'elle est pour tout le monde et les autres à venir. Puisqu'il faut changer les choses. Maintenant
présent, nous accueillons Angelo, Manouchak, Gloria, Alan, Evan et Roxane pour nous parler du projet danse.
Merci Luna. Ce projet est réalisé en collaboration avec Jennifer Goyer, chorégraphe la DSDEN, la DRAC et le centre culturel Pablo Picasso. Il a pour but la réalisation d'un atelier danse au sein de la classe sur le thème de la danse et des arts martiaux, avec l'intervention de la chorégraphe Jennifer Goyer, de la compagnie Core Institute. Manouchak, je crois que tu l'as déjà rencontrée.
En effet, Angelo, elle a déjà réalisé un atelier danse dans ma classe l'an passé sur le thème du petit chaperon rouge à partir du spectacle chromatique de Julien Fesselli. Peut-être vous aviez assisté à la restitution de l'atelier en fin d'année à la salle Pablo Picasso. Cette année, la classe a pu la rencontrer en période 2. Gloria, peux-tu nous en dire plus sur cette rencontre ?
Oui, Manouchak. Le 29 novembre, après une semaine de résidence de travail à la menuiserie à Montsiol, une étape de travail de Projet K a été présentée au centre culturel Pablo Picasso. Projet K fait se rencontrer la danse contemporaine et les arts martiaux, en particulier le karaté. La pièce chorégraphique est un duo où les danseurs Ville Oinen, ancien sportif de haut niveau en karaté, et Yuri de Goussem explorent l'espace et les formes de mouvement où danse et karaté deviennent complémentaires. Les élèves de la classe ont pu assister en exclusivité à cette étape de travail, puis échanger avec la chorégraphe et les deux danseurs. Les trois artistes nous ont parlé de leurs sources d'inspiration, que ce soit les échauffements et mouvements de karaté proposés par Villet ou les supports utilisés comme des écritures chinoises, des estampes. Notre moment préféré a été la bataille de pouces. Plusieurs autres étapes de travail sont déjà programmées dans d'autres lieux. Jennifer Goyer a un emploi du temps bien chargé en ce début d'année, n'est-ce pas, Ivan ?
Gloria, nous retrouvons Jennifer Goyer dans un spectacle intitulé « C'est un cadeau » au Centre culturel Pablo Picasso. Durant ce spectacle, les danseurs et chorégraphes Jennifer Goyer et Grégory Beaumont ne sont pas revenus les mains vides autour de leur périple autour du monde. Dans leur business, on y trouve parfum, café, marque extraordinaire et danse venue derrière. Dans un spectacle qui appelle à la rêverie, un avion se transforme en un incroyable minibus. Le duo de danseurs embarque les plus jeunes dans un voyage dansé. Nous avons hâte de le découvrir. Alors à vos agendas pour cocher la date du 17 au 19 mars. Parallèlement, Alan, un travail en littérature a débuté en classe.
Oui, Evan. Depuis cette rentrée, nous travaillons sur le roman « Le vieux fou de dessin » de François Place. Le jeune Togero est un petit vendeur ambulant qui distribue ses gâteaux de riz dans les rues d'Edo. Parmi ses clients, il compte un vieux peintre qui lui achète toujours quelques gâteaux. Un jour, celui-ci va proposer à Togero de le prendre comme commis. Chaque matin, il travaille dans son atelier. En échange, il lui apprend à lire et écrire. Le vieux peintre n'est autre qu'Okusei, le grand maître d'estampes japonaises. Tout au long de ce court roman, on découvre les secrets de la fabrication des estampes, on visite l'atelier du graveur, on découvre des anecdotes sur la fabrication, non, sur la vie et l'œuvre du grand maître et la vie dans les rues d'Edo. À la fin du 19e siècle, de quoi nous mettre dans l'ambiance du projet de danse. Et vous, chers auditeurs, connaissez-vous Okusei ? Roxane, peux-tu nous le présenter ?
Bien sûr, Alan. Katsushika Okusei, plus connu sous le simple nom d'Okusei, est un peintre, graveur, dessinateur et auteur d'écrits populaires japonais. Né en 1760 à Edo, l'ancien nom de Tokyo, Okusei est l'inventeur du mot manga, que l'on peut traduire par dessin libre. Son œuvre est à l'origine du mouvement japoniste qui regroupe de nombreux artistes européens comme Gauguin, Van Gogh, Monet, Klimt ou Auguste Renoir. Mais il n'a pas eu une vie facile, n'est-ce pas, Alan ?
Effectivement, Roxane. Né de parents inconnus, Okusei est adopté à l'âge de 3 ou 4 ans par l'artisan en charge de la fabrication des miroirs à la cour du shogun. C'est à cette période qu'Okusei s'intéresse précocement au dessin et à la peinture. Après avoir étudié la gravure sur bois, il intègre en 1778 l'atelier de Katsukawa Shunshu, spécialiste de portraits d'acteurs, où il fabrique des estampes yukiyo et produit différents dessins. À la mort de son maître, Okusei quitte l'atelier et connaît alors une période de grande pauvreté durant laquelle il continue d'étudier de nouvelles techniques.
Heureusement, Alan, c'est à ce moment que l'art néerlandais et la connaissance de la perspective influencent son travail. En 1814, il publie sa manga regroupant croquis et dessins. Les 36 vues du Mont Fuji, créées entre 1831 et 1833, comptant en réalité 46 estampes.
et la grande vague de Kanawaga en 1831 sont ses œuvres les plus connues. La couverture de la partition de la mer en 1905 de Debussy reproduit notamment la vague d'Okusei. Le peintre japonais laisse derrière lui près de 30 000 dessins signés sous différents pseudonymes, dont Kakiojin qui signifie le fou de dessin. Gloria, pour finir avec ce roman, peux-tu nous décrire une estampe ?
Oui, Roxane, une estampe est une technique qui permet de reproduire un dessin en plusieurs exemplaires, en creusant un support et en se servant de ce support en relief pour faire apparaître le dessin. Le premier support utilisé a été le bois au Moyen-Âge, et il a été utilisé pendant très longtemps. Le graveur prend une planche de bois, il trace son dessin au crayon, ensuite il prend des outils spéciaux pour creuser le bois et enlever tout ce qui devra apparaître en blanc. Quand la gravure est terminée, on passe sur la planche un rouleau de caoutchouc qu'on a d'abord passé sur de l'encre. On pose sur la planche une feuille de papier et on la frotte bien pour que l'encre se reporte du bois sur le papier. Cette opération s'appelle l'estampage. On retire la feuille et le dessin est sur le papier. On peut recommencer et faire autant de gravures que l'on veut. Nous étudierons cette technique en art plastique durant les deux prochaines périodes. Vous retrouverez nos réalisations sur l'ENT.
Merci à tous. Pour achever cette partie, nous retrouvons Gloria et Eliane pour nous parler de leur manga préféré.
C'est l'histoire d'un jeune orphelin qui rêve de devenir chef de son village. Livré à lui-même depuis son plus jeune âge, ses parents ne lui ayant laissé pour héritage que son nom et un lourd secret scellé par un sort afin de protéger le village de Konoha des démons venus du passé. Venez découvrir Uzumaki Naruto. Ce manga lie à la fois amitié, action et fou rire.
Mon manga préféré est Dragon Ball Super. Ça me plaît parce qu'il y a de l'action, des scènes rigolotes et car ce manga est en noir et blanc et ressemble aux bandes dessinées.
C'est ainsi que s'achève la présentation de notre projet de classe que vous pouvez retrouver au fil de l'année sur l'ENT. Nous vous souhaitons une bonne journée. C'était la classe de CM1 CM2 de Madame Friss en direct de l'école Henri Barbus à Omécourt sur les ondes de Radio Franca.
Vous nous écoutez sur Radio Franca. Radio Franca, c'est la radio des enfants. Retrouvez toutes les émissions sur franca-on-r.fr.
Le ciment dans les plaines coule jusqu'aux montagnes. Poison dans les fontaines, dans nos campagnes. De cyclone en rafale, notre histoire prend l'eau. Reste notre idéal. Faire les beaux. S'acheter de l'air en bas, remplir la balance. Quelques pétrodollars contre l'existence. De l'équateur au pôle, ce poids sur nos épaules. De squatteurs éphémères, maintenant c'est plus trop. Quelques baffes à prendre, la veille est pour demain, des baffes à rendre, faire tenir debout une armée de roseaux, plus personne à genoux fait.